de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, on se rencontre avec moi, Tiwi, et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La Nouvelle-Zélande a enregistré 100 jours sans cas locaux de COVID-19 ». Le ministre américain de la Santé se rend à Taïwan pour en savoir plus sur la gestion du coronavirus. Le ministre libanais de l'Intérieur, Mohamed Fahmi, a déclaré que le directeur du port était le principal responsable de l'explosion mardi dernier. Macron a accueilli une conférence de donateurs pour le Liban après l'explosion. Le vice-président de MPR a exhorté le public à respecter le protocole de santé. INASA s'assure que les gens volent sainement. Les musulmans d'Alberta recueillent des dons pour les victimes de l'explosion au Liban. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. La Nouvelle-Zélande, dimanche dernier, a marqué 100 jours sans transmission locale de COVID-19, mais a mis en garde les gens contre la complaisance, car des pays comme le Vietnam et l'Australie, qui ont autrefois maîtrisé le virus, luttent maintenant contre une infection résurgente. Selon le directeur général de la santé, Dr. Ashley Bloomfield, dimanche dernier, la lutte réussie de la Nouvelle-Zélande contre le COVID-19 a fait de la nation insulaire du Pacifique de 5 millions d'habitants l'un des endroits les plus sûrs au monde aujourd'hui. Les Néo-Zélandais sont revenus à une vie normale, mais les autorités craignent que les gens refusent désormais les tests, n'utilisent pas les applications de recherche des contacts du gouvernement et ignorent même les règles d'hygiène de base. Selon Bloomfield, la Nouvelle-Zélande compte 23 cas actifs dans des établissements d'isolement gérés et jusqu'à présent enregistré au nombre total de 1219 cas de COVID-19. La Nouvelle-Zélande a intensifié la semaine dernière le test dans les installations de quarantaine et les cliniques et a commencé à développer une technologie pour suivre les personnes à l'aide de la technologie Bluetooth. Le ministre américain de la Santé, Alex Azar, a atterri à Taïwan dimanche dernier pour une visite de haut niveau avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Azar est devenu le membre le plus haut placé du cabinet, a visité Taïwan depuis des décennies alors que les relations américano-chinoises atteignaient des niveaux historiquement bas. Washington a qualifié le voyage d'une occasion d'apprendre de la lutte de Taïwan contre le coronavirus et de célébrer ses valeurs progressistes. Outre sa rencontre avec Tsai, Azar a eu des entretiens avec le ministre de la Santé, Chen Xinchun, et le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu. Taïwan est devenu un pilote pour vaincre le coronavirus grâce à un programme de suivi bien rodé et de contrôle aux frontières strictes. L'explosion libanaise a fait 154 morts et 5 000 blessés. Cela a été dit par Mohamed Fahmi, cité par le Saudi Gazette dimanche dernier. Fahmi a déclaré que les résultats de l'enquête officielle n'étaient pas encore publiés. Mais il a confirmé que le progrès de l'enquête ont montré qu'il y avait des cas de négligence et que la responsabilité morale incombe au directeur et au président. Fahmi a également déclaré que l'estimation initiale était qu'il y avait 3 autres fonctionnaires soupçonnés d'être impliqués dans l'explosion au port de Beyrouth. Des 3 personnes, toujours selon lui, le directeur du port est le plus responsable. Le président français Emmanuel Macron a accueilli dimanche dernier le président américain Donald Trump et d'autres dirigeants politiques lors d'une vidéoconférence soutenue par l'Organisation Nations Unies pour augmenter l'aide d'urgence au Liban après l'explosion de Beyrouth. Macron s'est rendu à Beyrouth jeudi dernier. Il est le premier leader mondial à le faire après l'explosion. Il a promis au peuple libanais que l'aide humanitaire viendrait, mais que des réformes politiques profondes étaient nécessaires pour résoudre les problèmes du pays et obtenir un soutien à long terme. Macron a déclaré « Je vous garantis que cette aide à la reconstruction n'atteindra pas les corrupteurs. » En assistant, Macron refuse de fixer un objectif pour la conférence. Une aide d'urgence est nécessaire pour la reconstruction, l'aide alimentaire, l'équipement médical et les écoles, ainsi que les hôpitaux, a déclaré le responsable. L'Israël et l'Iran n'ont pas participé, a déclaré un responsable de l'Élysée. Le Liban était plongé dans une crise politique et économique profonde lorsqu'une puissante explosion a détruit mardi son principal port, tuant 158 personnes, en blessant plus de 6000 et en détruisant des parties de la ville. La reconstruction de Beyrouth pourrait coûter des milliards de dollars. Les économistes estiment que l'explosion pourrait anéantir jusqu'au 25% du PIB du pays. Le vice-président de l'Assemblée consultative populaire, ou MPR, de la République d'Indonésie, Syarifuddin Hassan, a exhorté le peuple indonésien à continuer à obéir aux protocoles sanitaires recommandés par le gouvernement lors de la réalisation de diverses activités, en particulier celles impliquant un grand nombre de personnes. Syarifuddin Hassan, dans son communiqué reçu par l'agence de presse à Antara Jakarta dimanche dernier, a transmis l'invitation parce que la recommandation du gouvernement sur les protocoles de santé a été faite pour minimiser et combattre le développement croissant de COVID-19. Il a souligné que pour faire face à une pandémie, il faut commencer par éliminer la cause, à savoir le virus lui-même. Lorsque le virus aura disparu, selon lui, tous les effets d'une pandémie disparaîtront également progressivement. Alors, les gens peuvent reprendre leur vie normale comme avant le COVID-19. Actuellement, Sharif Hassan a déclaré que le respect des protocoles de santé pourrait éliminer la pandémie avant que des vaccins ou des médicaments ne soient pas découverts. L'Association des compagnies aériennes nationales indonésiennes, ou INASA, fournit des garanties de santé et de sécurité aérienne au peuple indonésien en appliquant une campagne pour la sécurité des voyages depuis le début août 2020. Le président d'INASA, Denan Prawira Atmaja, a expliqué que toutes les parties prenantes de l'industrie aéronautique ont strictement mis en œuvre des protocoles de santé conformément aux dispositions du ministère de la Santé et du ministère des Transports. Lors de l'ouverture de la campagne Prestour Safe Travel à l'aéroport international de Soekarno-Hatta Cengkareng et à l'aéroport de Kuala Namu à Medan dimanche dernier, Denan a déclaré que jusqu'à présent, le gouvernement avait aidé les compagnies aériennes et les gestionnaires d'aéroports à fournir des services de vol sain. Vous faites cela en exigeant que les passagers de l'avion ont les résultats du test rapide et remplissent une carte d'alerte sanitaire s'ils veulent voyager par avion. En outre, des dispositions visant à maintenir la distance physique dans la zone aéroportuaire et dans l'avion sont également appliquées. Un groupe musulman en Alberta, au Canada, collecte des dons à envoyer au Liban pour aider les victimes de l'explosion à Beyrouth. L'association sociale musulmane d'Alberta accepte les dons en argent qui sont ensuite envoyés directement à la Croix-Rouge libanaise ou à d'autres organisations non gouvernementales. L'association envoie également les nourritures et d'autres articles essentiels qui seront expédiés le 20 août 2020. Un bénévole de l'Association sociale musulmane d'Alberta à Calgary, Mohamed Awada, a déclaré qu'il pleurait chaque fois qu'il apprenait la nouvelle de l'explosion au Liban, qui est son pays d'origine. Cela a été dit par Mohamed Awada, rapporté sur CBC dimanche dernier. Awada a également collecté des dons pour aider les victimes de l'explosion dévastatrice qui s'est produite la semaine dernière aux portes de Beyrouth. Pour cette raison, Awada a appelé la communauté de Calgary à être généreuse en aidant les victimes à Beyrouth. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre « Le réveil de la technologie nationale pendant la pandémie ». Aujourd'hui, il y a 25 ans, le 10 août 1995, l'avion N250 Gatot Kaca de fabrication indonésienne a volé avec succès pour la première fois. C'est une preuve claire des fières réalisations de la nation indonésienne dans ses efforts pour développer, appliquer et maîtriser la science et la technologie, en particulier dans le domaine de l'aérospatial. Pour commémorer cet événement, conformément au décret présidentiel numéro 71 de 1995, le 10 août est désigné comme la journée nationale de l'éveil technologique. La technologie est devenue une partie de plus en plus inséparable de la vie humaine quotidienne. La technologie, en particulier la technologie de l'information et de la communication, est largement utilisée dans presque toutes les activités humaines, surtout à l'ère de la pandémie de COVID-19 comme aujourd'hui, où presque toutes les activités sont menées avec des protocoles de santé en réduisant les réunions en face à face pour éviter la transmission du virus de COVID-19. Il est indéniable que les développements technologiques ont changé de mode de vie, la manière de travailler et la manière de faire des affaires humaines. De nombreuses entreprises et emplois ont maintenant disparu, mais de nombreuses nouvelles entreprises et emplois ont été créées. Les impacts économiques et sociaux résultant de ces développements technologiques sont grands et détermineront la direction de l'avenir de l'humanité. Avant la pandémie, les gens ne pensaient probablement pas que des réunions importantes pouvaient se tenir à distance. D'une part, cela peut économiser de la main-d'œuvre et des coûts, d'autre part, cela nuit à d'autres industries. L'industrie aéronautique, par exemple, est l'une des plus touchées en raison de la pandémie de COVID-19. Dans une discussion en ligne sur le thème « Le voyage de l'industrie aérospatiale nationale » qui a eu lieu pour commémorer le 25e anniversaire de la Journée nationale de l'éveil technologique vendredi, le président du conseil d'administration du centre Habibi, Ilham Habibi, a déclaré que lors d'une pandémie comme celle d'aujourd'hui, le trafic aérien mondial est en baisse d'environ 80%. Cela a conduit de nombreuses compagnies aériennes à réduire leurs itinéraires de vol ou même à ne pas pouvoir poursuivre leurs activités. Cependant, moins de compagnies aériennes signifie également une diminution du nombre de concurrents dans ce domaine et peut entraîner une croissance saine. Il prévoit que la possibilité pour l'industrie du transport aérien de se redresser réellement ne sera que dans les 3 prochaines années. Pendant ce temps, Elvin Guntoro, président directeur de PT Dirgantara Indonesia, a déclaré que son entreprise, qui produit généralement des avions pour les opérations militaires et les vols commerciaux, pendant la pandémie de COVID-19 a fait une innovation en produisant des ventilateurs ou des appareils respiratoires. Cela a été fait pour contourner l'impact de COVID-19 sur les activités de l'entreprise. La pandémie de COVID-19 a un impact majeur sur la vie humaine, mais en fin de compte, tout dépend des humains de savoir s'ils peuvent transformer ce défi en opportunité. Espérons que la pandémie de COVID-19 deviendra un élan pour que la nation indonésienne innove davantage et crée de nouvelles technologies, comme il y a 25 ans, lorsque la nation indonésienne a pu produire ses propres avions pour la première fois. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020. Sur le thème, l'Indonésie va de l'avant. La longévité pour la République indonésienne.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 août. Le 10 août 1937, la guerre du Japon contre la Chine. Le 10 août 1937, le Japon et la Chine se sont affrontés pendant 2 ans pour se disputer Canton et Shanghai, 2 régions importantes de la Chine. Canton est un port important et stratégique dans le sud de la Chine. Le peuple chinois s'est battu pour défendre son territoire, mais après de lourdes pertes, le 25 avril 1939, les troupes chinoises se sont rendues et Canton a été capturé par le Japon. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, le Japon occupa une grande partie de la Chine. Cependant, le peuple chinois a mené une dure bataille pour qu'enfin le Japon retire ses troupes. Le 10 août 1973, le président Suharto a inauguré la deuxième restauration du temple Borobudur. Le temple Borobudur est un temple bouddhiste situé à Magelang, Java Central. Le temple se trouve à environ 100 km au sud-ouest de Semarang et à 40 km au nord-ouest de Yogyakarta. Le temple a été fondé par les bouddhistes Mahayana vers l'an 800 sous le règne de la dynastie Shailendra. Le temple Borobudur a été rénové à plusieurs reprises. Il a été restauré pour la première fois de 1907 à 1911 par Van Erp afin de réparer et de restaurer la partie Arupadhatu et le stupa principal. Le 10 août 1973, le président Suharto inaugura la deuxième restauration du temple Borobudur. La restauration du temple Borobudur a impliqué plus de 600 travailleurs. Le plus grand projet de restauration a eu lieu entre 1975 et 1982 à l'initiative du gouvernement indonésien et de l'UNESCO. Cette activité prend 10 ans et le 23 février 1983, la restauration du temple Borobudur a été déclarée complète avec l'inauguration marquée par la signature de l'inscription par le président Suharto. Après des travaux de rénovation, l'UNESCO a ajouté Borobudur à la liste des sites du patrimoine mondial en 1991. Le 10 août 1995, l'avion Gatot Kaca N250 produit par PT Industrie Pesawat Terbang Nusantara a pour la première fois effectué un test en vol. La commémoration de la Journée nationale de l'éveil technologique a commencé lorsque la nation indonésienne a mené avec succès le test en vol de l'avion Gatot Kaca N250 pour la première fois à la suite de la production de PT Industrie Pesawat Terbang Nusantara, maintenant PT Dirgantara Indonesia, le 10 août 1995. Ce succès est une preuve tangible des réalisations des filles et fils de la nation indonésienne qui se vantent des efforts déployés pour développer, appliquer et maîtriser les connaissances technologiques, notamment dans le domaine de l'aérospatial. Par conséquent, conformément à la décision du président de la République d'Indonésie numéro 71 de l'an 1995, la date du 10 août a été désignée comme Journée nationale de l'éveil technologique. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Namun tiada pernah ku dengar kabar, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain. Engkau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Engkau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Padanya Ilahi.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, la suite, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, le ministère de l'Industrie renforce le rôle de l'industrie de la fonderie de nickel. Le gouvernement continue d'encourager l'augmentation de la valeur ajoutée des matières premières minérales dans le pays. On pense que la politique en aval a apporté une contribution significative à l'économie nationale, y compris par la réalisation de la valeur à l'exportation. Le directeur général de la résilience, de la zone territoriale et de l'accès industriel international du ministère de l'Industrie, Dodi Widodo à Jakarta, a expliqué vendredi que le gouvernement avait promulgué une loi sur l'extraction des minéraux et du charbon qui impose une valeur ajoutée accrue grâce à la transformation des ressources minérales. Pour que les produits exportés aient une valeur ajoutée bien supérieure à l'exportation de produits minéraux bruts. À l'heure actuelle, l'industrie des fonderies du nickel qui produit de la fonte brute de nickel ou NPI, du ferro-nickel, de l'hydrate de nickel et de l'acier inoxydable a connu une croissance rapide. Dodi a déclaré que jusqu'à présent, environ 19 fonderies fonctionnaient à l'est de Java, à Banten, au sud de Sulawesi, au centre de Sulawesi, au sud-est de Sulawesi et au nord de Molok. En fait, il y a déjà ceux qui sont en train de construire une fonderie de nickel qui transforme du nickel de faible qualité en matière première pour batterie située dans le centre de Sulawesi, le nord de Molouk et Banten. Sur la base des données de l'Agence centrale de statistiques, en 2018 et 2019, la valeur des exportations de produits industriels métalliques à base de nickel a atteint respectivement 4,8 milliards de dollars et 7,08 milliards de dollars, soit une augmentation de 47,5%. La grande contribution de l'industrie de la fonderie de nickel, selon Dodi, doit être encouragée pour le développement de ses produits en aval. On espère que la fonderie de nickel exportera non seulement sous forme de la fonte brute de nickel et de matières premières pour batteries, mais sous forme de produits en aval, tels que des produits en aval en acier inoxydable et des batteries électriques. Dodi a déclaré, voyant le rôle potentiel de l'industrie de la fonderie de nickel dans le pays, le ministère de l'Industrie a apprécié la formation du Forum indonésien sur le nickel ou FINI. On espère que l'industrie nationale des fonderies de nickel jouera de plus en plus un rôle dans le développement de l'industrie des métaux de base et des produits de nickel en aval. Le président de FINI, Alexander Barus, a déclaré que le forum avait rassemblé 23 industries de fonderie de nickel en Indonésie. Il a déclaré que l'industrie de la fonderie avait prouvé sa contribution significative à l'économie nationale. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, les arts et la culture des diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons l'église Maria Anai Velangkani au nord de Sumatra. Restez à l'écoute. L'Indonésie n'a pas seulement un objet de tourisme naturel étonnant, mais il existe également des destinations religieuses très populaires. L'une d'elles est l'église Maria Anai Velangkani dans la province du nord de Sumatra. L'église est sur Jalan Sakura, Tanjung Selamat, Medan. Cette église est assez unique car elle ressemble à un temple en Inde. Cette église était fondée par le pasteur James Bharataputra S.J. qui était inspiré par un temple en Inde. L'église a commencé à être construite en 2001 et terminée en 2005. Le nom d'Anai Velangkani est tiré de la langue indienne. Anai signifie mère et Velangkani signifie l'endroit où la Vierge Marie est apparue. Cette apparence devient l'arrière-fond de la construction de l'église catholique à l'architecture moghole. L'architecture de Mogul est caractéristique du temple en Inde. L'église Maria Anai Velangkani se compose de deux étages, le rez-de-chaussée et devenu le hall. Le premier étage est un lieu de culte avec balcon dont ses 14 fenêtres racontent le chemin de croix. Au deuxième étage, il y a la statue d'Anai Velangkani avec son fils qui sont directement amenés d'Inde. Là-bas, il y a aussi 20 fenêtres qui racontent l'événement dans la vie de Jésus, équipé de 7 niveaux de tour avec 3 dômes qui symbolisent le ciel. Sur le côté gauche, il y a la chapelle d'Anai Velangkani pour le culte quotidien et devant elle, il y a un mini-parc pour commémorer le pape Johannes Paulus II. Il y a aussi un parc pour les enfants et un complexe Graha qui peut accueillir les visiteurs de loin pour un séjour gratuit. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui intitulé L'église Maria Anai Velangkani au nord de Sumatra. Nous nous retrouverons avec un autre sujet plus intéressant encore. À demain!
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Kamu suka tariannya ?» Je répète, « Kamu suka tariannya ?» Ou en français, « Tu aimes la danse ?» Bonne idée. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Kamu suka tariannya? Kamu suka tariannya? En français, tu aimes la danse? Siti demande à Kevin s'il aime la danse qu'il vient d'apprendre.
Apakah kamu suka tarian tadi?
Iya, aku suka sekali.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Kamu suka tariannya? Kamu suka tariannya? En français, tu aimes la danse. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Apakah kamu suka? Apakah kamu suka, qui signifie « Est-ce que tu l'aimes ?» Iya. Iya, qui signifie « Oui ». Aku suka. Aku suka, qui signifie « Je l'aime ». Pour demander si quelqu'un aime quelque chose ou non, vous pouvez dire « Apakah kamu suka ?» « Apakah kamu suka ?» En français, « Est-ce que tu l'aimes ?» « Anda suka ?» « Anda suka ?» En français, « Vous l'aimez ?» « Bagaimana ? Suka tidak ?» « Bagaimana ? Suka tidak ?» En français, « Comment tu l'aimes ?» Pour y répondre, vous pouvez dire « Iya, aku suka. » Je répète. Iya, aku suka. En français, oui, je l'aime. Par exemple, apa kamu suka menari? Apa kamu suka menari? En français, tu aimes danser? Iya, aku suka sekali. Je répète. Iya, aku suka sekali. Ou en français, oui, j'aime bien. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Apakah kamu suka tarian tadi?
Iya, aku suka sekali.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa.
Bisa, bisa, bisa.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Seperti itu, pantas kamu. salah diriku kemana. Hilangnya dirimu, ku jadi sendiri. Sendiri berpikir, apa salah diriku, kemana, kemana hilangnya dirimu, hilangnya dirimu, hey! Ku jadi sendiri, hubungi semua teman-teman,
teman-teman.
Sendiri, sendiri menyesal.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Timur manakala
sampai kah di hari esok. Pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang kan abadi.
Bon, chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Au revoir.